Jugé. 101.5 FM.
Je parle un petit peu.
Et bah merci beaucoup et bonne soirée à vous. Et puis bravo au prochain gagnant, au futur gagnant.
Merci Pierre-Benoît.
Et en réalité, on connaît le gagnant. Merci à tous d'être restés jusqu'au bout. Notre émission de fréquence touche à sa fin. Merci pour l'invitation, Sophia, Max, Sophie et Alex de m'avoir accompagné dans cette aventure. Et à bientôt. Et bon, continuez bien sur nos deux fréquences respectives.
Aubrey Hill Clayton on a wet deck. That day, I cut my throat.
Salut, bienvenue dans Bande Geek Mafia. Bande Geek Mafia, c'est votre émission Info Culture, une semaine sur deux, les semaines paires, sur Radio G. Salut Seb.
Salut Seb, et salut aux auditeurs, et bonne année, parce que moi je leur avais pas encore souhaité la bonne année.
Et surtout la santé.
Et la santé, mais pas des pieds.
Et alors, on salue nos chroniqueurs absents ce soir pour des raisons diverses et variées. Salut Anaïs, salut Pablo.
Salut Anaïs, salut Pablo.
Alors ce soir, on va parler comme d'habitude de cinéma. Alors non, pas tellement de cinéma, parce qu'on n'y va plus beaucoup, mais de séries télé, de théâtre, de bande dessinée, de livres, de musique, tout ce qu'on aime.
Bah de l'éclectisme, de toute façon, comme d'habitude.
Et surtout, le 110 mètres est... Alors, Seb, on va démarrer l'émission en écoutant un petit Ozzy Osbourne. Pourquoi ? Parce que ça fait plaisir.
Parce que ça fait du bien, tout simplement.
Ça s'appelle « Over the Mountain ». C'est un titre très célèbre d'Ozzy Osbourne. Et on essaye d'écouter ça tout de suite dans Bande Geek Mafia sur Radio G.
Ouais, youpi. 101.5, la radio qui fait le point.
Merci Seb.
Vas-y.
Alors bah, du coup, ça fonctionne pas. Je sais pourquoi.
Pourquoi ?
Il y a un petit malin qui avait coupé le son.
Oh, bah non, il est pas gentil. Ça fonctionne pas plus.
Bah merde.
Mais que se passe-t-il donc ?
Ah ça y est, ça part. Alors attention, on recommence. 1, 2, 3. Alors c'est les faux départs ce soir. Attention, un petit coup de batterie. Vous êtes bien dans Bande Geek Mafia sur Radio G.
101.5, la radio qui fait le point. Yeah.
Where'd you think I wandered to?
Yeah, c'était Ozzy Osbourne avec Over the Mountain dans Bande Geek Mafia.
Radio G, c'est à moi ça, la radio qui fait bon.
Ah, c'est bon, hein. Un vieux Ozzy, ça fait du bien quand même.
Oh, bah, il est pas si vieux que ça.
Oh, hein. Si, il est très vieux. Vieux. D'ailleurs, c'est un miracle qu'il soit toujours vivant.
Comme beaucoup de rockers.
C'est clair. Alors, tout de suite, rien à voir, mais nous allons parler théâtre. Et oui, pas cinéma ce soir, puisque je suis allé au théâtre du Quai, Seb.
Et au théâtre ce soir, les décors sont de Roger Hart, la mise en scène de Donald Carwell. C'est un nouveau générique.
Alors,
générique.
Pour les plus jeunes, Seb, tu m'expliques, s'il te plaît.
Oh, c'était une ancienne émission au théâtre ce soir qui passait, qui permettait justement à un moment où on n'avait peut-être pas la possibilité d'aller tant au théâtre que ça, puisque notamment dans les petites villes,
dans la campagne profonde,
Bourguignonne, peu importe, ça permettait comme ça, la télévision avait cet aspect, permettait de voir des pièces de théâtre, puis de bonne qualité aussi en même temps, ça mettait un peu d'ambiance.
Alors moi je vous parle d'une pièce de théâtre très récente qui vient de passer au Quai, c'est Le Dragon de Yevgeny Schwartz, mis en scène par Thomas Joly.
Mmh. À 5 années de marche d'ici, dans les montagnes noires, il y a une grande caverne, et dans cette caverne, il y a un grand livre. Personne n'y touche, mais chaque jour, il s'y remplit des pages et des pages. Qui est-ce qui écrit ? Le monde entier. Les montagnes, les herbes, les pierres, les arbres, les lacs et les rivières sont témoins de tout ce que font les humains. Et tous les crimes, toutes les misères passent de branche en branche, de feuille en feuille, de goutte en goutte, de nuage en nuage, jusqu'à la grotte des montagnes noires, et le livre se remplit. Si ce livre n'existait pas, les arbres se dessécheraient d'horreur et les eaux deviendraient amères. À qui s'adresse ce livre ? À moi.
Voilà, c'est la bande-annonce du Dragon au Quai, donc du 18 au 25, c'est-à-dire jusqu'à hier soir. Alors, et en tournée ensuite.
Excuse-moi, mais ça donne envie, quoi. C'est bien vendeur. C'est bien vendeur.
Je t'en parle tout de suite.
Vas-y.
Alors, en fait, le Dragon, c'est l'histoire d'un tyran, en fait, voilà, d'une dictature. On est dans un pays un peu indéterminé, mais ça peut être la Russie, hein, par exemple. Et le Dragon, il domine un territoire, il domine un village, une ville entière, et ses habitants. Et tous les habitants sont terrorisés par le Dragon. Jusqu'au jour où un preux chevalier, qui s'appelle Lancelot, qui est un descendant du Lancelot arthurien...
Du lac.
Voilà, du lac, arrive dans la ville, essaye de comprendre la situation, et va se mettre dans l'idée de défier le Dragon. Alors évidemment, la population est terrorisée par cette audace, l'audace de ce chevalier. Et donc la population essaye de l'empêcher de défier le dragon. Et le dragon, bien sûr, est au courant de tout. Et il vient lui-même lancer un défi au chevalier, puisqu'il est sûr de lui. Ça, c'est le premier acte. Il y a 3 actes. Et puis dans le 2e acte, je ne vous raconte pas tout. Hein. On va avoir le combat, hein, bien sûr. Et... Tout ne va pas se passer comme prévu. Voilà.
Attention, ne divulgage pas.
Non, je ne divulgage pas. En fait, ce qu'on peut dire, ce qui est intéressant, c'est que, en gros, le message de cette pièce, c'est que même quand une tyrannie s'écroule, il y en a toujours une autre qui prend le relais. Voilà. Ouais, alors, c'est pas très joyeux.
C'est joyeux, c'est gai. Hein,
alors, pas du tout. Par contre, honnêtement, c'était assez génial. Alors, c'est une pièce de théâtre pleine de bruit et de fureur. C'est pas du tout ennuyeux, il y a énormément d'effets visuels, d'effets sonores, de musique. Par contre, c'est assez tonitruant, c'est-à-dire les acteurs parlent très fort, voilà.
Prévoyez votre casque.
Alors, nous, on a vu au tout début des représentations, c'est-à-dire qu'on devait être à la 2e représentation. Apparemment, ensuite, ça s'est un petit peu rééquilibré, parce que je pense que le public a dû dire que c'était un peu fort.
Non, c'est pas ça, c'est que les acteurs, ils avaient plus de voix
en réalité. Alors, tout ça pour dire, les décors sont géniaux, vraiment hyper beaux, les costumes sont superbes, voilà, et donc, il y a 3 actes, et moi je trouve, pour mettre un petit bémol, c'est que le 3e acte est un peu de trop, Voilà. Non, mais vraiment, c'est-à-dire que les deux premiers actes sont géniaux. Voilà, on s'ennuie pas, on est dedans. C'est hyper dynamique, hyper. Ça plaît à tout le monde, même aux jeunes. Hein.
Oui, bah oui.
Mais le troisième acte, finalement, on commence à fatiguer. Ça dure 2h40. Hein,
ah ouais, non, mais là, ça commence à être long.
On
là.
Commence à fatiguer, donc il y a toujours beaucoup de bruit et de fureur. Et c'est vrai que il aurait mérité à être un peu plus court, ce troisième acte. Voilà,
si bah, c'est un peu comme la trilogie de Matrix. Hein. Le troisième, on aurait pu l'oublier directement.
Oui, alors bon, là, c'est pas une trilogie, non. Mais c'est le troisième acte qui est un peu long. Mais sinon, honnêtement, voilà, encore une réussite du quai depuis que Thomas Joly est là. Moi, je trouve quand même que les propositions sont très, très, très chouettes, très sympas. Donc, si vous avez l'occasion, alors maintenant à Angers, c'est trop tard, mais il y a une tournée de prévue. Si vous avez l'occasion de voir cette pièce, peut-être qu'elle reviendra d'ailleurs, donc mise en scène par Thomas Joly, Le Dragon, je ne peux que vous conseiller d'y aller. Voilà.
Descendez de la montagne à cheval.
D'ailleurs, ce soir, une thématique un peu autour du dragon.
Oui.
On va en reparler.
On va en parler du dragon. Le dragon est avec nous.
Le dragon est avec nous.
Oui, salut, je suis le dragon.
Il fait bien. Alors, peut-être que c'est la fatigue, mais il le fait bien.
Oui, je pense que c'est la fatigue, un peu de fatigue déjà.
Alors, un qui était quand même un dragon dans la musique, c'était David Bowie. Tout à fait. Mais oui, David Bowie, c'était quand même. Assez génial. Et j'ai redécouvert récemment un morceau très peu connu, qui s'appelle Shadow Man, qui est vraiment à la fin d'un album de Bowie, l'album Eason, qui est un vieux titre.
Dans les années 70
En fait, c'est un titre des années 70 que Bowie avait jamais vraiment sorti sur album, mais qui jouait en concert.
C'est le titre honteux.
Non, en fait, c'est un titre très chouette.
D'accord.
Donc, on redécouvre Shadow Man de David Bowie dans Band Geek Mafia.
Sur Radio G 101.5, la radio qui fait le point.
Shadow.
Voilà, c'était le grand David Bowie avec Shadowman d'un Bandit Mafia. C'était pour Pablo et Sarah.
Ça nous fait du bien. Et ça change un petit peu, là, effectivement. Hein, c'est pas un morceau de David Bowie comme
on a l'habitude d'entendre.
Comme on a l'habitude d'entendre.
Ouais, on fait aussi des découvertes dans Bandit Mafia.
Tout à fait.
N'est-ce pas?
D'où le 110 mètres, ouais. C'est l'éclectisme.
Creature Shock Radio FM. Alors Seb, je sais que tu as lu un livre, mais un excellent livre.
Un excellent livre qui nous parle d'un dragon, malheureusement qui est encore très vivace, hein, finalement.
C'est la bête.
C'est la bête.
La bête immonde.
Voilà, donc bah, c'est le dernier de chez Granger, hein, Jean-Christophe Granger, Les Promises. Donc là, son roman. Les Promises, ce sont ces grandes dames du Reich, belles et insouciantes, qui se retrouvent chaque après-midi à l'hôtel Aldon, Adlon de Berlin, pour bavarder et boire du champagne, alors que l'Europe, à la veille de la Seconde Guerre mondiale, est au bord d'imploser. Ce sont aussi les victimes d'un tueur mystérieux qui les surprend sur les rives de la Spree ou près des lacs, les soumettant à d'horribles mutilations. Et là, honnêtement, là, on retrouve bien le style de Granger. Hein. Il n'y a pas de problème là sur
la mutilation.
Ah, la mutilation, là, bien dans le détail. Hein. Dans un Berlin incandescent, frémissant comme le cratère d'un volcan, trois êtres singuliers vont s'atteler à l'enquête. Simon Cross, psychanalyste surdoué, gigolo sur les bords, toujours prêt à se faire chanter ses patientes.
Et à se faire chanter.
Franz Bewin, colosse de la Gestapo, brutal et sans pitié, parti en guerre contre le monde. Mina von Hassel, riche héritière et psychiatre dévouée, s'efforçant de sauver les oubliés du Reich. Ces enquêteurs que tout oppose vont suivre les traces du monstre et découvrir une vérité stupéfiante. Le mal n'est pas toujours là où on l'attend.
Oh.
Et franchement, c'est un roman, moi je l'ai vraiment dévoré. Et c'est, bah, c'est, voilà, c'est du Granger. On a l'impression, on retrouve cet univers qui était déjà très présent bah, dans les rivières pourpres, hein, finalement.
Les rivières pourpres.
Donc là, on est transposé, on est envoyé dans ce Berlin de 1939 qui est à la veille de la guerre où la politique se mêle avec justement cette gestion de meurtre. Et franchement, ça vaut le coup, c'est génial. On est pris, on est emporté. Et puis, comme dirait aussi Annette Wiewiórka, qui fait une petite citation, c'est un roman vraiment formidable, incroyablement juste sur le nazisme aussi en même temps, parce qu'on est dans le tréfonds du nazisme aussi en même temps. Et là, il s'est vraiment bien documenté là-dessus. Et voilà, quoi. C'est vraiment un roman que je vous conseille parce que là, on s'ennuie pas. Bien sûr, il y a les passages un petit peu horribles sur les mutilations. Alors, on va dire, on est sur Granger. Je pense que là.
Oui, mais il écrit bien.
Oui, non, mais il écrit super bien. Ça se passe comme une lettre à la poste. Et puis, de toute façon, pour ne rien divulgâcher, de toute façon, l'assassin, c'est le majordome dans la bibliothèque avec le chandelier. Et voilà. À vous de découvrir maintenant qui est l'assassin.
Donc c'est agréable à lire. On apprend des choses.
On voit surtout la lutte d'intérêts entre tous ces personnages arrivistes un petit peu qui constituaient ce monde de la SS, hein, des nazis, puisque là on va au cœur de la SS aussi, les méthodes pseudo-policières de cet organe qui se veut remplacer la police officielle, et puis en même temps cette peur aussi latente du peuple allemand vis-à-vis de ces êtres qui sont de véritables dragons qui arrivent qui détruisent tout, quoi. De toute façon ils imposent et on est obligé d'obéir, quoi. Si on n'obéit pas, on est détruit, on est massacré.
Il y a une intrigue. Le roman a l'air assez épais. Hein.
Oui, j'ai emmené juste la couverture.
Il dévoile tout. Mais ça a l'air d'être un gros livre.
Non, mais c'est un beau livre. Il y a
600 pages.
Non, ouais. Oh, bah, ouais, à peu près. Ouais,
chez Albin Michel.
Ouais, chez Albin Michel. 23,90€.
D'accord. Un beau bouquin,
voilà. Et honnêtement.
Est-ce que ça se met en place assez vite? Parce que Granger, le truc souvent, c'est que ça met du temps à démarrer.
Non, ça démarre pas lentement, mais on est pris déjà parce que le premier personnage, le personnage d'accroche, on rentre dans l'histoire par tout simplement Simon Cross. Et déjà rien que sur la description de Simon Cross et puis ce qu'il fait, ce psychologue, ce psychanalyste, eh bien on est pris, on a envie, et puis d'un seul coup, on a envie de le suivre, et puis d'un seul coup intervient le deuxième personnage, justement Bwin, qui intervient brutalement comme ça, d'un seul coup, on ne sait pas d'où il arrive, hein, tel un cheveu sur la soupe, il arrive comme ça. Et puis c'est ce personnage qui va prendre ce personnage qui va prendre de l'importance. Et puis arrive après le troisième personnage qui est donc Mina Von Essel. C'est pareil, ils arrivent comme ça, comme des cheveux sur la soupe, et ils prennent leur importance, et le lien se fait. Et ils viennent relancer l'action. L'action se concentre autour d'eux. La mayonnaise prend, et du coup, on a envie de savoir. On a envie vraiment de savoir ce qu'ils vont découvrir, comment ils vont le faire, qu'est-ce qui va leur arriver, parce que le danger, eh bien, au final, c'est le danger est presque dans faut-il trouver la vérité ou pas.
D'accord. Ah, intéressant. Philosophique.
C'est pas philosophique, c'est que là, il en va de leur vie, puisqu'ils marchent sur des petits œufs, comme on peut dire.
Ouais. Puisque c'est pas que de la théorie. Merci Seb.
Mais de rien.
Donc Grand G,
Les Promises aux éditions Albin Michel. Là, franchement, allez-y, allez vous éclater.
Merci. Et tu nous proposes un petit Berruyer noir.
Ouais.
Alors, pourquoi ça, Seb? Moi, j'adore. Hein.
Et hop, voilà.
Dans Bande Geek Mafia sur Radio G.
101.5, la radio qui fait le point.
C'est longtemps, dis donc, les Berrues. Berruyer noir avec Eop. Ah, ça date de 1987.
Ah oui, quand même, déjà.
Archive de la zone mondiale.
Oh mon Dieu.
Alors, notre collègue street artiste Waldo nous a proposé de diffuser des petits contes, des petites histoires qu'il aime nous raconter suite à ses pérégrinations dans la ville, si j'ose dire. Et donc ce soir, évidemment, pour rester dans la thématique, c'est le dragon.
Aïe, 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 aïe.
Et c'est tout de suite dans Bande Geek Mafia.
Maintenant, Radio G, un podcast Radio G.
Nous sommes-nous ?
Bonjour, je suis Waldo, un street artiste vivant à Angers. Sans aucune autorisation, je m'amuse à poser des mosaïques sur les murs de la ville. Lors d'une promenade dans le centre, il vous est peut-être arrivé de tomber nez à nez sur une de mes créations. Un phare, un panda ou un pélican. Chacune a son histoire, laissez-moi donc vous la conter. Suivez-moi. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire qui s'est déroulée sous vos yeux et que vous n'avez pourtant pas vue. C'est l'histoire des dragons d'Angers. Cela ne vous dit rien, n'est-ce pas ? Cela s'est joué au cœur de votre cité, dans le royaume de l'invisible. Il y a de nombreuses années, un homme, venant de nulle part, fit son apparition dans les rues d'Angers. Enfin, ce n'était pas vraiment dans les rues, car cet homme se déplaçait principalement sur les toits. Rapide et furtif, il était très difficile à voir. Au mieux, pouvait-on vaguement apercevoir le mouvement d'une ombre. Cet étranger portait sur lui une sorte de flûte en bois, ornée de symboles runiques. La nuit de son apparition fut celle de l'hiver. Ce soir-là, cet homme vint réaliser ce pourquoi il était venu. Perché sur un toit, au-dessus d'une ruelle, il sortit sa flûte pour y jouer une mélopée ensorcelante. À ce moment-là, haut dans le ciel nocturne, apparut un dragon. Ce dragon avait un long corps constitué de somptueux motifs géométriques colorés. C'est avec majesté que ce dragon effectua une descente vers le joueur de flûte. Si au même moment, votre regard se trouvait dans sa direction, vous auriez juste aperçu un filament de lumière. Car ce dragon vient d'une dimension à laquelle la plupart des humains n'ont pas accès. Quand le dragon fut proche du joueur de flûte, celui-ci effectua un bref saut dans le vide, où il finit par atterrir sans heurts dans la ruelle. Le joueur réalisa alors une légère danse avec sa flûte qui amena le dragon à se jeter sur le mur de tout son élan. Dans un éclat de lumière, le dragon se cristallisa dans le mur. Il avait rejoint notre dimension. Mais seule sa tête, dotée d'une large gueule aux dents acérées, se figea sur la pierre du mur. Une brise de vent passa et l'étranger avait disparu, réapparaissant le moment d'après sur un autre toit d'où il fit venir un autre dragon. Ainsi, il donna naissance à une dizaine de dragons au cœur de la cité. Cet homme se nommait Auré, et il quitta la ville aussi brusquement qu'il était arrivé. Cependant, il avait laissé derrière lui un clan de dragons appelé Quetzalcoatl, des dragons qui avaient pour mission de protéger la cité. La vie continua sans que les gens remarquèrent le moindre changement. Il en fut ainsi jusqu'au jour où un autre étranger fit son apparition. Celui-ci décida de s'installer dans la cité. Pendant la journée, il se fondait parmi la population, mais dès le soir venu, il devenait lui aussi une ombre furtive. Durant ses sorties nocturnes, il se déplaçait avec un coffre sur le dos. Ce coffre, il le déposait au pied d'un mur, puis il l'ouvrait en entonnant des paroles magiques. Soudain, il jetait en l'air une poudre d'un rouge étincelant, et c'est alors que surgissait du coffre une créature qui se fixait sur le mur. Ce magicien s'appelait Waldo. Les agissements de ce magicien créèrent une vive agitation au sein du clan des Quetzalcoatl. Agitation qui atteignit son paroxysme lors d'une nuit. Cette nuit-là, Waldo fit apparaître une créature particulière, un Quetzalcoatl. Le magicien avait donc modelé un dragon semblable à eux, mais constitué d'une matière différente de la leur. Ce dragon arborait lui aussi une large gueule ouverte d'où apparaissaient des dents aiguisées. Cette apparition fut d'autant plus troublante que ce dragon se figea sur un mur faisant directement face à l'un des Quetzalcoatl, une situation extrêmement menaçante. Une puissante tension s'empara du clan des dragons. Puis, progressivement, ils relâchèrent leurs mâchoires. Ils n'allaient pas intervenir. L'étrange Quetzalcoatl n'avait en fait rien de belliqueux. Bien au contraire, il émettait des signaux d'ouverture afin de se relier au clan. Waldo pouvait donc continuer à faire apparaître ses créatures. Les dragons décidèrent qu'ils les protégeraient. Quant aux deux dragons se faisant face, ils formaient dorénavant une porte invisible et puissante protégeant l'entrée de la cité.
Voilà, on remercie Waldo pour ce conte Le Dragon.
Un podcast à Radio G. Dans un instant, un nouvel épisode.
Dans un instant, la suite de votre émission préférée, Bande Geek Mafia, bien sûr.
Sur Radio G, 101.5, la radio qui fait le point.
Ouais, c'était trop fort.
On essaye.
Creature Shock Radio FM. Alors à mon tour de vous parler, et cette fois je vous parle de série télé. Alors j'avais déjà évoqué cette série Vigile, une série sur Arte. D'ailleurs ce soir les deux séries dont je vais vous parler sont sur Arte, donc vous pouvez les voir gratuitement, c'est quand même vachement bien.
Ce qui est pas mal. C'est...
Donc cette série Vigile, je vous en ai déjà parlé, mais je l'avais pas vue à l'époque, c'était conseillé par Frédéric. Et là, je l'ai regardé, et effectivement, c'est assez génial. Alors, je vous rappelle le pitch. D'ailleurs, Seb, je suis sûr que ça va te plaire, il faut que tu vois ça, sur Arte. Non, vraiment. C'est en fait la disparition d'un chalutier de pêche écossais, tu vois.
Ouais.
Le décès d'un individu à bord d'un sous-marin nucléaire.
Ouais.
D'un marin.
Il faut essayer de faire le lien entre les deux.
Eh bien, ça engendre un conflit entre la police locale,
ouais,
la Royal Navy,
oui,
et les services de renseignement britanniques.
D'accord. Ça ne fait pas référence à l'affaire du Bougalet de Brest, non, des fois?
Bah, ça peut.
Ça peut, non. Mais...
Non, honnêtement, c'est excellent. Il y a donc, c'est une mini-série en 6 épisodes.
Ah bah, donc, oui, oui.
C'est une série de la BBC, une série anglaise, avec des actrices assez géniales. Alors, il y a Suran Jones, hein, et surtout Rose Leslie. Rose Leslie qu'on a vue dans Game of Thrones, hein, jouer Ygritte, la sauvageonne.
Oui.
Mais Suran Jones, elle est quand même géniale, c'est elle qui a le rôle principal. Mais c'est quand même, c'est hyper bien fait. C'est-à-dire que c'est une histoire de meurtre, mais ça débouche sur une lutte intestine entre vraiment tous ces services, quoi, de police, de l'armée et des services secrets. Et donc, il y a une enquête dans le sous-marin, mais aussi à l'extérieur, parce que sa collègue continue à faire des recherches sur le terrain. Moi, je trouve que c'est une des meilleures séries que j'ai vues dernièrement. Vraiment, c'est original, c'est prenant, ça fonctionne parfaitement.
Et une petite blague merdique, un petit peu, ça se termine pas en queue de poisson? Non, mais je sors. Okay. Je sors.
Oui, c'est pas mal, j'avais pas pensé à ça. On écoute rapidement la petite bande-annonce, tiens.
Eh ben oui.
This is DCA Amy Silver. Earlier today, a crewman died on board Vigil.
How are you with confined spaces?
I'm gonna need someone who can radio me leads. I've got a good shorthand with Kirsten. I think this was a murder.
That's absurd. If you're asking who's capable, anybody.
This is a coordinated attack, sir. Everyone knows it's a cover-up.
You're going to let them die? This is a staggering act of hostility.
But we're not at war.
That is an illusion. We have always been at war.
C'est génial. Donc elle lui dit, mais nous ne sommes pas en guerre. Et le commandant du sous-marin lui dit, mais c'est une illusion, nous avons toujours été en guerre.
Mm-hmm. C'est un véritable panier de crabes.
C'est exactement ça. Alors, les acteurs, certains sont connus ou moins connus, mais vous les avez vus dans d'autres séries. Suran Jones, on l'a vu dans d'autres séries. On l'avait vu dans une série où Dr. Foster, pour ceux qui connaissent. Anaïs nous en avait parlé d'ailleurs.
Oui,
Rose Leslie dans Game of Thrones. On a aussi le contre-amiral qui jouait dans Game of Thrones, qui jouait Stannis Baratheon, tu vois.
D'accord, donc il y a quand même du...
Il y a du
perd la bataille.
Et il y a un acteur aussi qui joue à un des militaires, enfin un des marins, qui joue dans Sex Education aussi. Donc voilà, on a... non mais une très bonne série.
Oui, non,
donc,
non, mais...
Moi je vous conseille vraiment Vigile, si vous aimez en fait le suspense, tu vois, la géopolitique et les sous-marins, c'est fait pour vous.
Et puis bien sûr vous faites In the Navy.
Eh oui, et vous chantez In the Navy, bien sûr. Alors, deuxième série pour moi ce soir, rien à voir, toujours sur Arte, toujours gratuit, La Corde. Alors, La Corde, ça n'a rien à voir avec le film d'Alfred Hitchcock du même nom. C'est l'histoire d'un petit groupe de scientifiques qui sont isolés dans une base en Norvège. Donc, ils écoutent les étoiles, hein, ils ont des antennes.
Ils ont des oreilles aussi.
Voilà, ils ont des grandes oreilles, c'est-à-dire des grandes paraboles pour écouter un petit peu les étoiles. Donc, des scientifiques qui viennent de toute l'Europe, hein, pour travailler ensemble. Et ils découvrent, dans les bois autour de la base, une mystérieuse corde. Une corde. Mmh. Et cette corde, elle est en apparence sans fin. Ils essayent de la suivre, et elle est sans fin. Et cette corde, elle longe leur observatoire, elle s'enfonce dans la forêt. Et évidemment, certains décident de la suivre. Et d'autres décident de rester.
Voilà. Bien sûr.
Et tandis que l'expédition se transforme peu à peu en quête déterminée pour percer ce mystère, ils vont tous se trouver confrontés aux lourdes conséquences de leur choix.
Alors, c'est le principe de base dans tout film d'horreur, ne pas se séparer quand on est en groupe.
C'est vrai. Alors, il y a un côté Hitchcockien.
Ouais, oui.
Voilà. Et il y a d'excellents acteurs aussi. Alors, des acteurs européens, un casting européen. Et puis, c'est très intriguant, quoi. On se demande où ils veulent nous emmener. D'ailleurs, c'est de la corde. Hein. Alors, c'est vrai que c'est assez lent. Donc, certains vont se dire, bon, on s'ennuie, voilà. Mais en fait, je pense que c'est une série métaphysique. Et c'est dommage que Pablo ne soit pas là, parce que je pense qu'il pourrait développer cette idée ou confirmer. J'espère qu'il nous entend.
C'est le fil de la vie, le fil de l'existence.
Ouais, c'est ça, d'accord. Et puis moi, j'y vois aussi l'obstination des humains. C'est-à-dire qu'en fait, ils veulent absolument savoir ce qui est au bout de cette corde, à tout prix. Et surtout, ce qui est intéressant, donc c'est l'idée de la connaissance, de savoir ce qui
savoir. Savoir qu'est-ce qu'il y a derrière la montagne que l'on voit.
Exactement.
Une autre montagne.
Et surtout, ce qui est génial, c'est leur incapacité à faire demi-tour. C'est-à-dire qu'à un moment donné, certains disent, bon, bah, c'est bon, à quoi ça sert d'aller au bout, on va faire demi-tour, on rentre, etc. Et en fait, certains sont incapables de faire demi-tour, c'est la fuite en avant.
Oui, mais c'est normal, parce qu'ils connaissent plus le chemin, comme ils ont ramassé la corde.
Non, ils la ramassent pas. Elle est trop longue. Non, au contraire, ils ont le chemin du retour, quoi qu'il y a des pièges.
Bah.
Mais en tout cas, voilà, c'est ça, c'est leur incapacité à faire demi-tour, c'est la fuite en avant, ils veulent absolument. Et c'est un peu métaphysique dans le sens où c'est un peu le sens de la vie, la quête du sens, la quête de l'existence, de la connaissance. Et en même temps, c'est très humain, quoi. La société dans laquelle on vit aujourd'hui, c'est une société qui va toujours de l'avant, qui se retourne jamais et qui va droit dans le mur, quoi.
Bah oui, mais quand elle se retourne, elle regarde pas forcément du bon côté. Non, mais en tout cas, c'est pas mal parce que ça veut dire qu'ils ont retrouvé la laisse que j'avais perdue lors de la dernière balade du chien. Donc,
En Norvège. Évidemment, tu promènes ton chien en Norvège.
Bah oui. En partant d'Angers à pied, là, tranquille.
Petite bande-annonce.
Oui, allons-y.
J'ai eu des nouvelles de Paris. C'est bon, on a le feu vert.
Vous faites quoi exactement?
On étudie un phénomène astronomique. C'est une des clés pour comprendre la formation de l'univers.
C'est quoi cette corde?
Elle était peut-être déjà là avant.
On n'était pas là hier matin.
Elle va jusqu'où, tu crois?
C'est quelqu'un qui nous fait une blague.
On devrait mener l'enquête. C'est notre devoir des scientifiques.
Si on se dépêche, on sera rentré juste à la tombée de la nuit.
C'est vraiment très intriguant, cette corde. Vous n'avez pas envie de savoir où elle va?
De nuit dans la forêt, sans matériel, sans rien à bouffer, c'est beaucoup trop.
Vous pensez qu'ils se sont perdus?
Ils sont quelque part le long de la corde.
I'm not here for the rope.
Leila!
I'm here for the people.
Alors c'est hyper mystérieux. Hein. Et alors il y a de bons acteurs, il y a Suzanne Clément, Jean-Marc Barr, Jeanne Balibar, et puis d'un casting européen. C'est très mystérieux et c'est quasiment un cauchemar. Hein.
C'est un cauchemar. Par contre, la corde, c'est une corde en chanvre de très belle qualité. Tout à fait. Tout à fait. C'est un boot marin de très belle qualité.
Voilà. Donc, les deux séries pour moi ce soir, c'est Vigile, si vous aimez la géopolitique, et le mystère de la corde sur Arte TV.
Et les deux font le lien, hein, parce que c'est le même type de corde utilisé par la marine. Hein.
C'est
à mon
joli.
Avis, c'est joli. Hein,
c'est un boot.
C'est un boot.
Alors, Seb.
Oui.
La Mano Negra.
Si, Mano Negra.
Malavida. Alors nous, on adore la Mano Negra parce que bah, forcément, c'est notre génération.
C'est notre génération.
Et on fait découvrir aux jeunes.
On fait découvrir aux jeunes. Et puis, en même temps, c'était festif et on a besoin un petit peu de faire la fête comme ça.
Surtout dans Bande Geek Mafia.
Sur Radio G 101.5.
La radio qui fait le point.
Mi respirar.
Ah, merci Seb.
Ça, c'est la Madeleine de Proust gratos.
Ah, écoute, Mano Negra, Malavida.
Ah, ça, c'est bon. Et puis, ça fait du bien. Ça remet un peu la pêche.
The day I follow Aubrey Hill Clayton on a wet deck, that day, I cut my throat.
Eh bien oui, bande dessinée maintenant. Alors on va commencer tout d'abord par une bande dessinée de Bautian Morse, Dragon et Poison, le Bedonnant et le Balafré, aux éditions Draco. Des poisons, un dragon, une bande de crétins, que pourrait-il bien arriver d'affreux ? Revenus dans le passé pour réparer leurs erreurs, Nevo et Grayson sont confrontés à un défi de taille, convaincre leur eux d'avant de ne pas ruiner leur vie une seconde fois. Mais difficile de faire entendre raison à ces deux jeunes imbéciles qui ne rêvent que de faire la peau à un dragon plus fort et plus malin qu'eux. Heureusement, ils peuvent compter sur leur ami Natch, qui cette fois a bien l'intention de ne pas rester un personnage secondaire. Dans la Cité des Poisons, nos trois héros parviendront-ils à confondre un meurtrier, faire fortune et, soyons fous, trouver le bonheur ? Alors, c'est le deuxième tome de cette bande dessinée. Hein, Dragon et Poison.
On reste dans le thème. Hein.
On reste vraiment dans le thème.
On a vraiment bien préparé cette émission.
Ah, mais c'est qualité. Hein.
Non,
c'est,
puis voilà, voilà, continuité, c'est logique.
Continuité, logique.
Cohérence.
Donc là, oui, comme je vous disais, donc on vient de trouver le deuxième tome et on retrouve donc ces personnages. Mais là, cette fois-ci, les personnages que l'on a trouvés du premier tome qui ont basculé dans le temps, ils ont fait un retour vers le futur.
Oh.
Voilà. Ben, eux vont essayer de rompre le continuum espace-temps en essayant d'intervenir pour éviter que les deux abrutis qu'ils sont ne refasse exactement les mêmes conneries.
Non, mais c'est Doc et McFly ou quoi ?
Oui, tout à fait. Mais version Heroic Fantasy, hein, ouais, quoi, quand même.
Pas mal.
Donc voilà. Donc,
dessin est très sympa.
Le dessin est super sympa. Il y a plein d'humour. Voilà, c'est. Ouais. Plus d'humour peut-être dans le premier tome, il y avait plus de nouveautés. Dans le deuxième, on a toujours cette touche d'humour. Voilà, on passe un bon moment et puis ben, on est content de les retrouver et puis de trouver la suite et la fin de cette histoire.
Donc Dragon et Poison, le Bedonnant et le Balafré.
Aux éditions Draco. Donc voilà. Autre bande dessinée. Alors là, on repart sur un autre dragon hein, dont j'ai évoqué avec Granger.
On revient sur la bête immonde,
mais pas exactement. On revient plutôt sur la période. Alors moi, ça, je suis tombé dessus par hasard. Alors c'est pas une nouveauté hein, puisque ça fait un petit moment que c'est sorti. C'est Émile Bravo qui a repris le personnage de Spirou. Et qui a donc fait une histoire, tout simplement, donc qui commence par le journal d'un ingénu, 1939. Comment un adolescent qui tient des portes dans un hôtel peut-il se révéler et devenir le jeune aventurier que nous connaissons ? Pourquoi celui-ci choisira-t-il de garder sa livrée de groom ? A-t-il été amoureux ? A-t-il une conscience politique ? D'où vient son amitié indéfectible avec Fantasio? Et qui est ce Fantasio? Espite, c'est qui? Derrière toutes ces questions se cache un terrible traumatisme qui nous affectera tous. Donc voilà, donc en clair,
on redécouvre
Spirou, c'est-à-dire qu'on est après le tout premier Spirou des années 30, réalisé par le premier dessinateur dont j'ai mangé le nom malheureusement. C'est pas Franquin, le
créateur. C'est pas le créateur. Franquin.
C'est pas le créateur, mais donc. Donc, on est juste à la jonction entre le créateur et Franquin qui reprend. Alors après.
C'est Jean Dupuis.
Jean Dupuis, voilà.
Créé graphiquement par, ouais, Rob Vell.
Rob Vell et Jean Dupuis, donc voilà. Et donc, on va recréer l'histoire de Spirou en 1938-39. Alors, ce journal d'ingénu commence une série qui, en réalité, le tout va constituer une histoire en 5 épisodes.
D'accord.
La deuxième partie, c'est l'espoir malgré tout. Et là, pour l'instant, on vient de juste d'avoir la troisième partie de L'Espoir malgré tout qui vient de sortir. Donc théoriquement, la quatrième partie devrait arriver au mois d'avril de 2022 à peu près, dans ces parages-là, si tout se passe bien. Et là, on retrouve donc justement Spirou et Fantasio pendant la Seconde Guerre mondiale, pendant l'occupation belge, quoi, l'occupation allemande de la Belgique. Et donc on voit que le personnage de Spirou prend un peu plus d'ampleur. Et par contre Fantasio lui,
il est toujours journaliste.
Il est journaliste, moyen. C'est plutôt comment dire, c'est quelqu'un qui ne se rend pas compte de sa bêtise et qui met en danger les autres.
D'accord.
Et surtout dans une période où finalement être un petit peu différent, être un petit peu se moque de tout, se met en danger,
un peu marginal,
eh bien à cette époque-là, ça pouvait se traduire tout simplement par 12 balles dans la peau, quoi. Donc voilà. Donc on découvre finalement tout l'univers aussi de cette Belgique et toute l'occupation de la Belgique durant cette période.
C'est le Spirou d'Émile Bravo.
C'est le Spirou d'Émile Bravo. Et là, franchement, vraiment très bien. C'est vraiment très agréable. Et on a envie de savoir la suite, donc aux éditions Dupuis. Et puis enfin, pour terminer et pour rester toujours dans le même thème, alors là c'est une bande dessinée qui n'est pas encore sortie puisqu'elle devrait sortir demain, hein, théoriquement.
Excellent, on est toujours à la pointe.
Donc c'est la bande dessinée qui s'intitule Après la rafle, qui raconte l'histoire de Joseph Weissmann, qui lui-même avait déjà finalement raconté son histoire aussi dans un livre.
Oui.
Puisque Joseph Weissmann est rescapé de la rafle du Veldiv de 1942.
C'est ça.
Et donc
avec sa famille.
Avec sa famille. Et donc ce jeune enfant, hein, puisqu'il est tout jeune, hein, quand il se fait arrêter, donc quand il se fait rafler, il a 11 ans, se retrouve entraîné donc dans le circuit de toutes ces personnes qui ont été arrêtées et déportées. Donc il est transféré au camp de Beaune-la-Rolande et puis au final il réussit à s'échapper quand même, et donc voilà, et c'est son histoire qu'il raconte.
Alors, on peut dire aux auditeurs qu'il est toujours vivant.
Il est toujours vivant.
Il a 90 ans.
Il a 90 ans. Et d'ailleurs, donc là, c'est donc la bande dessinée dont je vous parle. Je l'ai pas lu encore, bien sûr, puisqu'elle n'est pas encore sortie.
Bien sûr.
C'est par l'intermédiaire d'un article de presse qui est sorti il y a deux jours donc j'ai eu.
Je crois que Joseph Weissmann, il habite au Mans.
Il habite au Mans, il habite au Mans,
dans la Sarthe.
Il habite au Mans, dans la Sarthe. Et donc voilà. Et lui, ce qu'il disait dans cet article, justement, il disait, il faut raconter la Shoah encore et encore parce qu'il y a des gens qui n'en ont jamais entendu parler. Le temps passe. Nous avons laissé beaucoup de témoignages, films, livres, entretiens, mais si on ne combat pas l'antisémitisme, la mémoire de la Shoah va disparaître. Et donc, c'est pour ça aussi, en même temps. Et d'après les courts extraits que j'ai pu trouver sur Internet de cette bande dessinée, graphiquement, ça a l'air d'être superbement bien fait aussi, en même temps. Et donc voilà, donc elle va sortir dans toutes les bonnes librairies demain. Donc moi je vous encourage.
Puis, l'histoire de Joseph Weissmann, on peut dire aussi aux auditeurs, c'est un récit poignant.
C'est un récit poignant, tout à fait. Un récit poignant, historique.
Il s'est évadé du camp. Enfin bref, on va pas tout dire.
Oh non, on va pas tout dire. On va pas. Voilà, c'est honnêtement, c'est quelque chose de touchant et
ça va être un succès. Ça.
Moi, à mon avis, ça va être pas mal. Petite parenthèse aussi en même temps, il a joué aussi, alors le film, on va peut-être l'oublier aussi en même temps, mais dans ce film,
La rafle. Oui,
Oh
bah écoute, donc
voilà.
En même temps, pour des jeunes qui connaissent pas l'histoire, ça permet une entrée.
On va laisser passer ça.
Oui.
Mais donc il joue le rôle d'un vieil homme aussi dans ce film. Donc voilà, il s'est remis finalement en danger aussi en même temps en reprenant son rôle ou du moins en revivant.
Il veut témoigner,
pour lui c'est important et je pense qu'effectivement c'est important de témoigner.
Merci pour toutes ces BD, Seb. Voilà. On rappelle les titres Dragons et Poisons, Le Bedonnant et Le Balafré.
Alors ça c'est plus...
Si on veut s'amuser.
Spirou,
si on aime Spirou.
Spirou le génie.
Tu sais que Spirou ne vieillit jamais.
Non.
Spirou n'est jamais ringard.
Non. Mais Spirou est toujours plus fort.
Le journal.
Le journal d'un ingénu, suivi éventuellement, si vous voulez continuer, pour continuer justement, par L'Espoir malgré tout. Et puis
après la rafle.
Voilà.
Merci Seb.
De rien.
Alors, pour se détendre et se faire plaisir, on écoute un petit ZZ Top.
ZZ Top.
dans Bande Geek Mafia.
Sur Radio G 101.5, la radio qui fait le point.
Out the wheel, we're going downtown in the middle of the night. We're laughing and I'm joking and we're feeling alright. Oh, I bet I'm nationwide. Yes, I bet I'm nationwide. Wearing spiky old shoes, they smoking Lucky Strikes and wearing nylon shoes. Go to bed.
Mafia, votre émission Info Culture, une semaine sur deux, tous les mercredis, non, une semaine sur deux, les semaines paires sur Radio G.
Les semaines paires, c'est les semaines gagnantes, parce que vous retrouvez donc Bande Geek Mafia.
Exactement. Et tout de suite, on laisse la place à Rudy Spack, pardon. Et on vous laisse et on vous dit à dans 15 jours.
Et à dans 15 jours.
Alors, on se fait plaisir, on finit l'émission avec un petit Berrurier Noir.
Oh bah oui, salut à toi.
Salut à tous.
Salut à tous. Enfin, salut à toi, c'est le morceau des Berruriers aussi.
C'est ça.
Ah, ça fait du bien ça.
Oh là, on est content de vous retrouver et on ouais. est content de vous retrouver dans 15 jours.
Dans 15 jours.
Salut.
Salut à toi, rebelle afghan. Salut à toi, le dissident. Salut à toi le chien, salut à toi le Timalien, salut à toi le Mohican, salut à toi peuple gitan, salut à toi l'Éthiopien, salut à toi le Tchadien, salut à vous les partisans, salut à toi Choli Allemande, salut à toi le Vietnamien, salut à toi le